Paul Gauguin et Jacques Brel ont un point commun. Tous deux ont vécu et reposent aux Marquises. Si le peintre a laissé en Polynésie des souvenirs plutôt mitigés, en référence notamment à ses frasques avec de très jeunes filles, le chanteur, lui, semble faire l'unanimité parmi les autochtones. En les rencontrant sur les lieux mêmes de leurs échanges avec le célèbre chanteur, c'est l'image d'un épicurien simple et généreux, surtout bon vivant, qui peu à peu se dessine. Bon vivant, oui, malgré une redoutable épée de Damoclès. Voici Jacques Brel.
Aux Marquises,
ce jour-là, Jean Liardon, le pilote et instructeur suisse ami du chanteur, reçut un télégramme. Brel avait eu un malaise quelque part et il annonçait son arrivée imminente à Genève-Cointrin. Alarmé, Jean Liardon prévient un médecin.
Et c'est là qu'on est parti après à la permanence des eaux vives à Genève, où il a fait tous les tests. Et au début, on ne reconnaissait pas forcément le cancer. Et par contre, 3 jours plus tard, c'était clair que c'était un cancer du poumon. Et bon, Jacques a dit dans ce cas, c'est le cancer, je ne sais pas pour combien de temps j'en ai, mais je ne veux pas qu'on en parle. On n'en parle pas à la famille, on n'en parle pas. Alors, là, il y a eu l'ordre de silence qui est sorti. Seulement alors, comme toujours, le soir même, il y a eu son frère qui avait des chagrins d'amour, qui téléphone à Jacques, voilà mon Jacques, qui dit on repart en avion, on part à Bruxelles. Alors nous, donc le jour où Jacques a appris qu'il avait le cancer, on a pris un avion, on est parti sur Bruxelles, on a rencontré le frère, on a bu des whisky pour consoler le frère, en tout cas jusqu'à 1h du matin. Et après, à 1h du matin, Jacques lui a dit j'ai le cancer. Et le frère, je ne sais pas s'il l'a cru ou pas, en tout cas, il était assez surpris. Et donc, au fait, le premier jour où Jacques était malade, ou qu'il savait qu'il était malade, il s'est beaucoup plus occupé de son frère qui avait des problèmes de cœur que de lui-même. Le cancer ne l'empêchait pas de voler. Les médecins suisses, il avait clairement dit, le jour où vous serez trop mal, de toute façon, vous ne pourrez plus voler, parce que vous-même, vous n'aurez plus envie de voler. Donc, pour Jacques, c'est aussi un baromètre, cela. Il savait aussi, non, tant que je peux voler, que j'ai envie de voler, c'est que ma santé va bien.
On peut donc dire quelque part que s'accrocher à l'aviation, c'était s'accrocher à la vie?
Absolument, oui, parce que c'était vraiment le baromètre. Et du reste, quand il est revenu en Suisse, une année avant sa mort, il avait fait avec mon père des programmes de voltige aérien complets pour justement se prouver qu'il pouvait encore supporter un programme de voltige. Et pour lui, ça l'avait à l'époque beaucoup réconforté d'avoir qu'après 15 minutes de voltige, il était encore en pleine forme. Et au fait, il essayait toujours de se prouver que ça marchait, que ça continuait. Par contre, quand il est tombé malade et qu'il est revenu pour son dernier voyage ici, là, quand on est parti à Avignon ensemble en avion, il a refusé de voler. Donc il a dit non, écoute, ça ne va pas. Et donc là, il avait déjà abandonné l'idée de voler.
S'agissant du cancer, Brel s'est montré sélectif dans les confidences, évitant le sujet avec certains amis, l'abordant fréquemment avec d'autres, comme Jean-Michel Deligny, l'animateur de Radio Tahiti.
Il en parlait constamment. Au début, lorsque je l'ai connu, non. Mais petit à petit, lorsqu'on est entré en amitié et que l'on a été un peu plus profondément, il vivait avec. Il était persuadé que ce qui lui est arrivé lui arriverait fatalement un jour, mais un jour assez proche. Dire que c'était une angoisse, si c'était une angoisse, il le cachait bien. Il faisait un peu comme, il s'en tirait comme avec une pirouette, comme avec Brassens, en tournant la mort en dérision. Enfin, il vivait quand même avec. Lorsqu'il est parti, il m'a envoyé un petit mot en me disant, voilà, je pars... on s'était vu, il était vraiment, moi ça m'avait un peu, il était en mauvais état, et il m'a envoyé un mot de l'aéroport en me disant, bon je pars, on se retrouve dans un mois, prépare-moi la bonne bouffe que j'aime, et dans un mois on se retrouve, et puis bon, bah, il est mort entre temps, donc... Ça, c'était la pirouette pour avoir l'air d'eux, mais je pense qu'il savait. Enfin, il vivait avec, il en parlait. Bon, à la fin même, bien avant qu'il soit vraiment atteint, enfin, qu'il ait cette espèce de rechute, c'était mal dit, là, à ce niveau-là, parce que là, on ne pouvait pas trop se permettre quand même de le rembarrer. C'était Mali qui lui disait, écoute, tu nous emmerdes, arrête de parler de ça, t'es toujours là. Bon, faut dire aussi qu'il se privait de rien. Son régime, c'était pas spécialement le bon, apparemment. Hein. C'était un très très bon vivant, aimant bien la bonne chair. C'est en cela qu'on s'aimait bien aussi, parce que moi c'est pareil. Alors, c'était difficile. Et dès qu'il commençait à s'orienter là-dessus, on essayait par tous les moyens de parler d'autre chose pour... Mais enfin, il cachait pas.
Michel Gauthier, le pilote d'Air Polynésie, fut aussi associé aux angoisses d'un Jacques Brel confronté à la maladie et à l'idée de la mort.
Il savait, il me disait carrément, écoute, on va faire la fête ce soir, on va bien se marrer, je vais mourir, je vais crever, mais c'est pas grave, hein. On va se marrer quand même. Et on rigolait, on se racontait des histoires. Alors des fois, il avait mal. Alors là, il me disait, ça va pas, je vais aller me reposer... Excuse-moi, il faut que j'aille me reposer un peu. Ça arrivait, ça, de temps en temps. Je lui dis, mais ça va maintenant, ça va faire bientôt 5 ans que tu as été opéré. Lui, il savait. Il me disait, mais non. Alors, il m'a dit, j'en ai pour 2 ans, et après, il m'a dit, il n'y a plus pour longtemps, quoi.
Vous n'avez jamais senti le désespoir chez lui ?
Jamais. Jamais. Il disait, c'est comme ça. Il n'y a que les cons qui ne meurent pas. Il disait ça. Il disait ça, mais il n'était pas triste de ça. Il prenait la chose... C'était peut-être de la gloriole, hein, parce que c'était un peu lui, ça. Hein.
Un peu fanfaron.
Un peu fanfaron. Peut-être je me mets à sa place. Peut-être j'aurais aimé, si j'étais malade un jour, j'aimerais réagir comme il réagissait. Mais ce qui ne veut pas dire que lui, il n'était pas malheureux de ça. Hein, c'est sûr. Et qu'il avait peut-être peur, comme les autres... Mais il ne le faisait pas voir. Jamais. Jamais. Même quand il avait mal. Il partait dans son coin tout seul. Il allait dans sa chambre. Mais il nous est resté là. Ça me dérange pas. J'ai l'impression qu'il était un sentiment de... Il était furieux. Fâché, quoi. Comme moi, je pourrais l'être. On a peut-être le même genre de... Quand je suis malade, je suis en colère parce que ça me fout un pétard. Et ça, c'était ça, peut-être, son sentiment.
Il avait une idée de l'origine de son cancer ? Est-ce qu'il a le sentiment d'avoir fait des bêtises ?
Oui, il m'a dit tout carrément. Il m'a dit, moi, j'ai fumé pendant 20 ans 4 paquets de cigarettes par nuit. Pas le jour, la nuit. Il dit, parce qu'après le spectacle, c'était la nuit qu'on vivait.
Aux Marquises, Jacques Brel n'était pas ce qu'on appelle un bon paroissien. Il n'en demeure pas moins que le père André, missionnaire à Ivaoa, faisait partie de ses amis les plus proches. L'homme d'église a-t-il perçu l'angoisse du chanteur face à cette mort programmée ?
Oui et non. Oui, parce que je le savais. Je le savais, mais il ne parlait pas de sa maladie. Il n'aimait pas. Il n'aimait pas parler de sa maladie. Je suis allé avec un confrère aussi manger chez lui. Un soir, il nous avait invités à midi parce qu'on n'aimait pas le soir. On a préféré le midi. Le soir, nous avons les offices, les réunions. Et il m'a, donc il m'avait, nous avait demandé de rentrer dans sa chambre, où c'était climatisé, parce qu'il avait du mal à respirer. Mais on sentait quand même l'homme malade. Quoi, hein.
Les médecins se sont d'ailleurs étonnés qu'il choisisse Ivaoa, dont le climat un peu humide et tropical n'est pas ce qu'on peut conseiller de mieux à quelqu'un qui a des problèmes de poumons.
Oui, mais c'est peut-être pour cela qu'il voulait, il avait l'intention de se construire une maison auprès de la piste. D'abord, pour être plus près de la piste, probablement pour être plus isolé. Et en même temps, c'est assez curieux parce que cet homme-là recherchait la compagnie, et pas n'importe laquelle, et en même temps, il l'évitait.
Sur l'île de Jacques Brel, nous avons découvert l'ambiance particulière des nuits marquisiennes, peuplées de moustiques terrifiants, les abominables nonos, de chiens errants, curieusement abâtardis, et animées surtout par le chant des coqs. De manière quasi ininterrompue, ces insupportables gallinacés se répondent d'un jardin, voire d'une vallée à l'autre, bien avant le lever du soleil. Ajoutez au tableau le climat moite et oppressant des tropiques, et vous comprendrez sans peine qu'Ivaoa puisse engendrer la folie d'un Gauguin, ou les insomnies des voyageurs. Mais à en croire Madly, la femme qui lui ferma les yeux quelques mois plus tard, Brel voulait les garder ouverts pour d'autres raisons.
C'était pas tellement l'angoisse de nocturne, c'est que dormir, c'était embêtant pour lui parce que pendant ce temps-là, il vivait pas et moi, il me voyait pas et il voulait qu'on vive 24 heures sur 24 réveillé. Donc moi aussi, j'avais des problèmes nocturnes parce qu'il me réveillait. Avec un bon petit plat, quelquefois, il me dit « Viens voir ce que je t'ai préparé à 2 heures du matin. » Et alors, bon, ben, si c'était une truffe en papillote, on refuse pas une truffe en papillote, même à 2h du matin, surtout quand c'est l'homme qu'on aime qui prépare ça en disant « viens voir », parce que je savais qu'il avait envie de parler, il avait envie qu'on parle le plus longtemps possible, pour prendre le plus de souvenirs possible, pour prendre le plus de vie possible. Donc, on avait des nuits écourtées, des fois, il me réveillait, tous les lundis, on allait piloter. Alors, c'était 5h du matin. Je disais, mais pourquoi pas 6 ou 7? Alors, des fois, il me réveillait, je dormais bien, après avoir été entrecoupé à 2h ou 3h du matin. Et il me dit, Doudou, il faut se réveiller. Je dis, pourquoi faire? Il me dit, parce qu'il faut se réveiller. Alors, je me réveillais, je me levais, moi qui adorais dormir. Bon, ben, j'ai appris à me réveiller n'importe quand, puis c'est tout. Oh, ça se fait très facilement. Quand on aime une personne, c'est pas un problème.
Sur l'île d'Ivaoa, nous avons retrouvé deux sœurs, parmi les religieuses de l'Institut Sainte-Anne, qui se souviennent encore d'un moment d'exception vécu en compagnie de Jacques Brel.
Sœur Geneviève, avec moi, nous étions seules avec M. Brel, dans la chambre. Il nous a montré son dos. Oulala, une cicatrice terrible. Ça a été l'opération de son dos. Et alors là, et puis... Il a plaisanté comme d'habitude, il disait, ça aurait fait du bon beefsteak, des choses comme ça, il plaisantait. Alors tout d'un coup, il nous a regardé, il a dit, il y a des moments pénibles, surtout les nuits. Il n'aime pas la nuit, Monsieur Brel, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas d'électricité jusqu'au matin. Il a dit, une fois que l'électricité est éteinte, il sent l'angoisse. Il est angoissé. Et il a dit... Il n'a qu'un poumon, il lui restait qu'un poumon, je crois. Hein. Alors, avec ce seul poumon, il était étouffé. Alors, il dit, voyez, les nuits marquisiennes, elles sont belles. Si, un silence, voyez les montagnes, c'est presque des monstres alanguis, là, les montagnes dans le noir, les grands arbres, le silence. Et puis, tout le monde dort, sauf lui. Alors, il a dit, personne avec moi. Madly dort, je ne vais pas l'obliger à venir veiller. Alors je suis seule à veiller. Il a dit, vous ne pouvez pas savoir, mes sœurs, l'angoisse que j'ai. Alors moi, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire, eh bien, il y a eu un solitaire, c'est Jésus à Gethsemane. Il m'a dit, oui, je comprends sa solitude et sa peine. La seule fois qu'il a parlé est de cette façon. C'est tout.
Marc Bastard, son aîné de 10 ans et son confident préféré aux marquises, se souvient aussi des insomnies de Brel.
Il dormait très mal. Pas d'angoisse, mais sa fatigue. J'allais le voir quelquefois. Il dit, je n'ai pas dormi cette nuit. Alors, il lisait énormément. Mais il n'avait pas d'angoisse de la mort. Hein. Il parlait pas de l'au-delà, bien sûr, mais il dit, dans ce qu'il espérait, c'est de ne pas être handicapé.
Déchoir.
Oui, parce qu'il dit, il le dit dans ses chansons, il disait, mourir c'est rien, c'est vieillir. Finalement, il avait une sérénité. Moi, j'ai toujours vu serein devant la mort. Enfin, serein. Il avait des angoisses sûrement intérieures, mais il le montrait pas.
Au prochain épisode, il sera question de l'enterrement de Jacques Brel.
Aux marquises.